Chapitre 12. Les dons de l'Esprit, l'Assemblée, corps de Christ. L'apôtre a présenté la scène du Seigneur comme la fête où l'Assemblée se réunit. Maintenant, il place devant nous les dons de l'Esprit-Saint et sa présence dans l'Assemblée, sans lesquels aucun ordre divin ne peut être maintenu lorsque les saints se réunissent pour participer à la scène ou pour l'exercice du ministère. Nous apprenons de ce passage que l'Assemblée est le corps de Christ, formé par l'Esprit, et que le Saint-Esprit opère dans le corps en distribuant les dons, pour le bien du corps, à chacun en particulier, comme il lui plaît, verset 11, pour que ces dons soient utilisés sous la conduite de l'Esprit, verset 3. L'apôtre nous met ainsi en garde contre l'intrusion de mauvais esprits et contre la prétention humaine. Il le fait en soutenant les droits du Saint-Esprit dans l'Assemblée de Dieu. Versets 1 à 3. Citation de l'Écriture. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que, quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes selon que vous étiez menés. C'est pourquoi, je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit « Anathème à Jésus » et que nul ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit Saint. Fin de citation. Le chapitre débute en nous donnant les véritables marques d'un ministère par l'Esprit de Dieu, ce qui nous permet ainsi de détecter et de refuser tout ministère émanant d'un faux esprit. Appelé d'entre les nations, ces croyants de Corinthe avaient été autrefois sous l'influence de faux esprits et conduits à adorer des idoles muettes, verset 2, et à maudire Jésus. Aucun homme parlant par l'Esprit Saint ne conduit à adorer des idoles ou à déprécier Christ. Au contraire, le Saint-Esprit conduit toujours à confesser Jésus comme Seigneur, verset 3. Ce verset 3 n'est pas exactement un test permettant de distinguer les croyants d'avec les incrédules. Il donne plutôt un moyen de discerner si un homme parle par l'Esprit de Dieu ou par un faux esprit. Il était particulièrement important d'avoir un tel test dans un jour où des révélations nouvelles étaient encore données par l'Esprit Saint et où le diable cherchait donc à contrefaire la révélation. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 2. De ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. » Fin de citation. L'importance du test n'a quand même pas cessé, bien que la révélation soit complète, car nous sommes avertis qu'au dernier jour, quelques-uns prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et qu'en outre, il y aura ceux qui, tout en professant être des ministres de Christ, seront en réalité des ministres de Satan. Ceux-ci peuvent être détectés par leur attitude envers Christ. Quiconque rabaisse Christ n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Voir 1 Timothée 4, verset 1. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Et 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière, ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Nous ayant préparé à discerner quand un homme parle par l'Esprit de Dieu, l'apôtre nous instruit quant à la puissance divine et à l'autorité divine pour l'exercice des différents dons pour le ministère. Versets 4 et 5. Versets 4 à 6. Citation de l'Écriture. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Et il y a diversité de services, et le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Fin de citation. Quiconque parle par le Saint-Esprit exaltera Christ, mais l'Esprit peut parler à travers des dons très différents. Ils sont néanmoins tous exercés dans l'énergie et la puissance de ce même Esprit. Verset 4. En outre, si les divers dons sont utilisés pour accomplir différentes formes de service, c'est le même Seigneur qui dirige dans tous les services. Verset 5. Enfin, l'exercice des dons dans les différents services produira différents effets ou opérations, mais c'est le même Dieu qui opère pour produire les résultats dans les âmes. Nous apprenons ainsi que les dons ne peuvent être utilisés correctement que dans l'énergie de l'Esprit, sous la direction du Seigneur, et toute œuvre véritable dans les âmes est le résultat de l'opération de Dieu. Ces trois versets 4 à 6, bien compris, sont très utiles pour réfuter, et en même temps corriger, trois graves désordres dans la chrétienté. Premièrement, on enseigne très généralement dans le monde religieux que, pour l'exercice d'un don, la capacité naturelle, la sagesse humaine et la formation dans un collège de théologie sont des préalables nécessaires. L'apôtre enseigne que, pour l'exercice d'un don dans l'assemblée de Dieu, nous avons besoin de ce qu'aucune école d'homme ne peut donner et qu'aucune connaissance humaine ne peut fournir, la présence et la puissance de l'Esprit. Dans sa puissance, il peut utiliser, et il utilise, des pécheurs illettrés et du commun, comme Pierre et Jean, acte 4, verset 13, pour occuper la haute position d'apôtre et bouleverser le monde, mais il peut aussi utiliser un homme de haute éducation comme l'apôtre Paul. L'orgueil de l'homme est ainsi mis de côté, et tout est fait pour qu'on se repose sur la présence et la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, la chrétienté prétend qu'avant de pouvoir exercer un don, un homme doit recevoir l'ordination par des hommes et être missionné par une autorité humaine pour le service. L'apôtre insiste sur le fait que le vrai service ne requiert que l'autorité du Seigneur. Troisièmement, pour opérer dans les âmes, les hommes comptent très largement sur l'éloquence, les appels émouvants, la musique, le chant et autres méthodes qui font appel au sens. L'apôtre nous dit que c'est Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui opère tout ce qui est divin dans tous ceux chez qui il y a un travail. L'apôtre a déjà rappelé à ses croyants « Ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Chapitre 2, versets 4 à 5. Nous apprenons ainsi que la puissance pour l'exercice des dons ne vient pas de l'homme, elle vient du Saint-Esprit. L'autorité pour le service ne vient pas de l'homme, elle vient du Seigneur. Le résultat dans les âmes n'est pas produit par l'homme, c'est l'opération de Dieu. Versets 7 à 11, citation de l'Écriture. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, et à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit. Et à un autre la foi, par le même Esprit. Et à un autre des dons de grâce de guérison, par le même Esprit. Et à un autre des opérations de miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre des discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Fin de citation. Ayant parlé de la source divine de tous les dons, l'apôtre nous enseigne maintenant sur les différences de dons et les différences dans leur distribution. Nous apprenons que l'Esprit ne concentre pas toutes ses manifestations dans un seul homme, ni dans une seule classe d'hommes. Les instructions de l'apôtre réprouvent un mal considérable de la chrétienté par lequel une classe spécifique d'hommes est mise à part pour le ministère, dissociant ainsi le peuple de Dieu en clergé et laïc. L'Écriture ne connaît pas une telle distinction. La chrétienté met de côté l'ordre de Dieu, et par là même, elle dit pratiquement que la manifestation de l'Esprit est donnée à un seul homme qui est ordonné pour présider une congrégation. Or, selon le verset 7, c'est à chacun que la manifestation de l'Esprit est donnée. De plus, cette manifestation de l'Esprit est donnée en vue de l'utilité. Elle n'est pas donnée pour que l'individu puisse s'exalter ou obtenir une place éminente parmi le peuple de Dieu, ou pour gagner une influence ou un avantage personnel, mais elle est donnée pour l'utilité et le profit de tous. cette instruction donnée par l'apôtre avait une portée toute spéciale pour les croyants à Corinthe qui utilisaient les dons pour s'exalter. L'apôtre poursuit en distinguant entre les différents dons. Il ne parle pas tant de la possession des dons, mais de leur manifestation ou utilisation. Ainsi, il ne parle pas simplement de sagesse et de connaissance, mais de parole de sagesse et de parole de connaissance. Verset 8. Le mot parole implique la communication de la sagesse et de la connaissance pour aider les autres. La sagesse est la possession de la pensée de Dieu, de sorte que tout est considéré comme devant Dieu et par rapport à Dieu, ce qui permet à son possesseur d'agir correctement en toutes circonstances particulières. La connaissance est plutôt une connaissance intelligente de la parole révélée de Dieu, de sorte que la doctrine peut être clairement affirmée. La foi, dans ce passage, n'est pas simplement la foi commune à tous les croyants, la foi en Christ et dans l'Évangile, verset 9, mais plutôt la foi spéciale donnée à certains croyants pour leur permettre d'aider le peuple du Seigneur en s'élevant au-dessus des difficultés, surmontant l'opposition et les guidant dans leur perplexité. Les dons de guérison étaient des dons signes en rapport avec nos corps, verset 9. L'opération du miracle, verset 10, autre que les guérisons, semble indiquer un déploiement de puissance sur des choses matérielles et des êtres spirituels. Voir Marc 16, versets 17 et 18. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Acte 13, verset 11. Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle sans voir le soleil pour un temps. Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui. Acte 16, verset 18. Paul, affligé, se retourna et dit à l'esprit : Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et à l'heure même, il sortit. Acte 28, verset 5. Au sujet de Paul : Une vipère sortit de la chaleur et s'attacha à sa main. Lui donc, ayant secoué la bête dans le feu, n'en souffrit aucun mal. La prophétie, au verset 10, était une manifestation de puissance spirituelle dans le domaine spirituel, permettant à son possesseur de donner la pensée de Dieu quant au présent ou à l'avenir. Voir Acte 11, verset 28. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine aurait lieu dans toute la terre habitée, laquelle aussi eut lieu sous Claude. 1 Corinthiens 14, verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification. Le discernement d'esprit, verset 10, est un don, comme quelqu'un l'a dit, qui est la faculté de trancher, non pas entre vrais et faux professants du Seigneur Jésus, mais entre l'enseignement de l'esprit et les simulations qui en sont faites par de mauvais esprits. Citation de William Kelly. Diverses sortes de langues peuvent être données à l'un et l'interprétation des langues à un autre, verset 10. Ces différents dons étant placés devant nous, il nous est rappelé que, si certains sont miraculeux, tous sont spirituels. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît, verset 11. L'ordre de Dieu pour son assemblée est la diversité de dons distribués à différents individus, exercés par une seule volonté, la puissance et la volonté du Saint-Esprit. Tout ordre véritable dans les assemblées du peuple de Dieu provient de Dieu lui-même, opérant au milieu de son peuple. La chrétienté, par ses arrangements humains, par l'ordination de ministres et les rites prescrits, ignore cet ordre en pratique, si ce n'est doctrinalement. Versets 12 et 13. Citation de l'Écriture. Car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Fin de citation. Des diverses manifestations de l'esprit, l'apôtre passe à la sphère où l'esprit agit. Cela conduit à un déploiement très béni de la vérité sur l'assemblée, considérée comme le corps de Christ. Selon l'ordre de Dieu, les croyants n'exercent pas ces dons comme des individus isolés, mais en tant que membres du corps de Christ et pour le bien de tout le corps. L'apôtre prend le corps humain pour illustrer certaines grandes vérités sur le corps de Christ. Comme le corps humain est un, et pourtant composé de plusieurs membres ayant tous leur place et leur rôle dans ce corps, ainsi aussi est le Christ. C'est une belle manière de présenter la vérité. Le sujet traité est l'Église ou Assemblée. Mais l'apôtre ne dit pas « ainsi aussi est l'Assemblée », mais « ainsi aussi est le Christ », verset 12. Le corps est le corps de Christ et comprend à la fois Christ et les membres. C'est son corps qui est là pour l'exprimer lui-même. C'est en accord avec la vérité présentée en premier à l'apôtre Paul à sa conversion, quand le Seigneur lui a demandé « Pourquoi me persécutes-tu ? » Toucher son peuple, c'est le toucher lui, toucher son corps. Il nous est alors dit que l'assemblée est composée de croyants, d'entre les Juifs ou d'entre les nations, baptisés en un seul corps par l'Esprit. Verset 13. Ce baptême de l'Esprit, comme nous le savons d'après Actes 1, verset 5 et Actes 2, a eu lieu à la Pentecôte lorsque les croyants, par le don et l'habitation du Saint-Esprit, ont été unis à Christ, la tête dans le ciel, et les uns aux autres. Ayant présenté la vérité de l'Assemblée comme le corps de Christ dans le début du chapitre, l'apôtre utilise ensuite les fonctions du corps humain pour présenter ce qui devrait caractériser en pratique le corps de Christ sur la terre. Il montre que, de même que le corps humain a été constitué pour fonctionner comme un ensemble uni, excluant tout désordre, il devrait en être ainsi de l'Assemblée. Versets 14 à 19. Citation de l'Écriture. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps. » Est-ce qu'à cause de cela il n'est pas du corps? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps. » Est-ce qu'à cause de cela elle n'est pas du corps? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Fin de citation. Premièrement, il nous est rappelé que dans le corps humain, il y a diversité dans l'unité. Le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Cette diversité serait entièrement ignorée et les pires désordres surgiraient si chaque membre négligeait sa propre fonction par envie à l'égard de membres ayant une fonction peut-être supérieure. Versets 15 à 16. Si le pied commençait à se plaindre de ne pas être une main, ou l'oreille de ne pas être un œil, le corps cesserait de fonctionner, car les membres en train de se plaindre cesseraient d'œuvrer efficacement pour le bien du corps. Un tel désordre ne peut être évité qu'en reconnaissant que c'est Dieu, non pas l'homme, qui a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il l'a voulu. Verset 18. Attribuant à chacun sa place et sa propre fonction. La prééminence d'un membre ferait disparaître le corps. Si tous étaient un seul membre, il n'y aurait pas de corps. Verset 19. Versets 20 à 25. Citation de l'Écriture. Mais maintenant les membres sont plusieurs, mais le corps un. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ou bien encore la tête, aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres, est un égal soin les uns des autres. Fin de citation. Deuxièmement, l'apôtre montre qu'il y a unité dans la diversité. S'il y a plusieurs membres, il n'y a qu'un corps, verset 20. Mais cette unité du corps serait mise en grand péril si les membres supérieurs regardaient avec mépris les membres inférieurs, verset 21. Nous avons déjà vu que l'envie de l'un vis-à-vis de l'autre briserait la diversité. Nous apprenons maintenant que le mépris briserait l'unité. Si l'œil traitait la main avec mépris, si la tête se moquait des pieds, toute l'unité du corps aurait disparu. Encore une fois, ces désordres ne peuvent être évincés que par la reconnaissance de la présence et de la puissance de Dieu qui a arrangé le corps de telle manière qu'aucun membre ne puisse se passer des autres. Versets 24 et 25. La reconnaissance de la première grande vérité de la diversité dans l'unité exclut entièrement le principe mondain du clergé, car il est évident que dans le seul corps, aucun membre ne peut prétendre à la prééminence, chaque membre ayant sa propre fonction. La reconnaissance de la seconde vérité, celle de l'unité dans la diversité, exclut le principe de l'indépendance. Les membres, bien qu'ayant chacun leur fonction particulière, dépendent les uns des autres. La vérité donc du corps de Christ est qu'aucun croyant n'a la prééminence et que tous dépendent les uns des autres. Verset 26. Citation de l'Écriture. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Fin de citation. Le résultat est que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. L'expression de ceci est sans doute grandement entravée par le morcellement de la chrétienté. Néanmoins, la vérité demeure que les membres ont un effet les uns sur les autres, étant unis les uns aux autres par le Saint-Esprit. Et la vérité demeure aussi que ce qui dépend de l'Esprit demeure, même si nos manquements peuvent en entraver beaucoup l'expression. Plus on est spirituel, plus on réalise la vérité que nous avons tous un effet les uns sur les autres. Le morcellement de l'assemblée a affaibli nos sensibilités spirituelles, mais, comme quelqu'un l'a dit, nous souffrons ou nous nous réjouissons consciemment dans la mesure de notre puissance spirituelle. Verset 27. Citation de l'Écriture. Or, vous êtes le corps de Christ, et ses membres, chacun en particulier. Fin de citation. L'apôtre a parlé de grands principes qui sont vrais pour toute l'assemblée de Dieu sur la terre considérée comme le corps de Christ. Il applique maintenant ces vérités à l'assemblée locale à Corinthe. Il dit « Or vous êtes corps de Christ et ses membres chacun en particulier » version Darby en anglais. Il ne dit pas « Vous êtes le corps de Christ » comme il est traduit à tort dans la version Darby en français et qui a été corrigée en anglais. Mais vous êtes corps de Christ. L'assemblée à Corinthe n'était pas le corps de Christ, mais elle était l'expression locale du corps comme en faisant partie. Un général pourrait dire à un groupe de soldats dans une localité donnée « Rappelez-vous que vous êtes gardes nationaux ». Il ne dit pas « Vous êtes les gardes nationaux », car il ne comporte pas tout le régiment. Néanmoins, il représente localement le régiment. Ainsi, aujourd'hui, c'est encore le privilège et la responsabilité de tous les chrétiens dans une localité donnée de se rassembler simplement comme membres du corps de Christ sur la terre et comme représentants locaux de ce seul corps. Par l'Esprit, tout croyant est un membre du corps de Christ et comme tel, il est responsable de marcher en conformité avec cette grande vérité, refusant d'être associé aux sectes de la chrétienté qui nient pratiquement cette vérité. Dans la chrétienté, cette grande vérité est ignorée par les chrétiens qui se rassemblent autour de quelques serviteurs dévoués ou par d'autres qui forment une union pour maintenir quelques vérités particulières. La seule unité formée par l'Esprit est le seul corps de Christ et la seule qualité de membre reconnue par l'Écriture est celle de membre de ce corps. En ce jour de morcellement, des chrétiens sincères tentent de reformer l'union des chrétiens en établissant des unions pour la prière, pour prêcher l'Évangile, pour une œuvre missionnaire ou pour la propagation de certaines vérités telles que la sainteté ou la venue du Seigneur. Beaucoup sont prêts à se joindre à ces unions faites par des hommes, mais bien peu veulent abandonner les diverses sectes formées par la sagesse humaine et les arrangements humains pour marcher à la lumière de la seule unité formée par l'Esprit et pour agir sous la direction de l'Esprit. Et pourtant, le Seigneur ne demande rien de plus. Il n'impose pas à nos consciences de rejoindre les innombrables réunions et unions diverses, ce qui serait, comme on l'a souligné, tout à fait impraticable pour la grande majorité des chrétiens. Le Seigneur ne propose pas non plus de laisser les différentes sectes et de voyager très loin pour se réunir durant une semaine chaque année afin d'exprimer notre unité en Christ. S'il en était ainsi, il nous serait demandé de faire quelque chose entièrement impossible pour la grande majorité du peuple de Dieu. Ce que le Seigneur cherche sûrement est que les siens, dans leur localité, laissent tout ce qui est un déni de la vérité et se réunissent dans la vérité du seul corps dont ils sont déjà membres, s'ils sont de vrais croyants. Quelqu'un a dit « Ce que le Seigneur demande de faire est faisable pour tous, sans bruit et sans faste, et est vrai dans son caractère et en tout temps. » Un tel chemin est ouvert aux plus simples et aux plus pauvres du peuple de Dieu. Il est vrai que si quelques-uns ont une foi donnée de Dieu pour se rassembler dans une localité quelconque, à la lumière de la vérité du seul corps, on ne pourrait guère dire d'eux, comme de l'assemblée à Corinthe, « Vous êtes corps de Christ », comme étant représentatif du corps de Christ. Car dans ce jour de morcellement, il serait difficile de trouver une assemblée quelconque de saints qui comprendrait tous les croyants de la localité. Pour les croyants, qui sont à tout prix prêts à marcher dans l'obéissance à la parole, il reste cependant toujours possible de marcher ensemble à la lumière de la vérité du seul corps. Versets 28 à 31. Citation de l'Écriture. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Fin de citation. Dans les derniers versets, il est placé devant nous le fait que Dieu a mis dans l'assemblée, c'est-à-dire l'Église dans son ensemble, des dons différents. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 7 et 8, nous apprenons que les dons sont donnés de la part de Christ, la tête du corps montée au ciel. Dans notre chapitre de l'Épître aux Corinthiens, au verset 7 et 11, nous apprenons que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons dans l'assemblée sur la terre. Certains de ces dons étaient sans doute pour le commencement du christianisme. C'est le cas des dons signes ou dons miraculeux. On ne trouve pas un mot sur leur éventuelle continuation à travers toute la période de l'assemblée. Il est significatif que les dons que les hommes convoitent soient placés au plus bas de l'échelle. Verset 28. Le don est quelque chose que nous pouvons à juste titre désirer avec ardeur. Néanmoins, du fait que, comme les croyants de Corinthe, nous pouvons facilement abuser des dons en cherchant à nous élever en les exerçant, il nous est dit qu'il y a un chemin plus excellent pour se servir les uns les autres. C'est de ce chemin bien plus excellent que l'apôtre se met tout de suite à nous parler au chapitre 13.